Je mets en marche le magnétophone pour voir si tout fonctionne bien. Et je marque déjà qu'il y a... Est-ce que... Oui, ça marche. Mon microphone ou moi. Est-ce que...
Vous voulez que je parle?
Oui.
Bon. De votre interview, vous ne vous servirez qu'en Angleterre?
Qu'en Angleterre, pas en France.
Bien. Parce que je suis fonctionnaire et tenu par suite à une certaine réserve dans mes déclarations.
Ah oui. On commence quand c'est prêt. Oui, alors, bien, la première question, monsieur, c'est le nom cité scolaire. Qu'est-ce que cela veut dire, cité scolaire?
Bon, c'est dans la terminologie de l'éducation nationale, une formule qui désigne un établissement scolaire important numériquement et important... Allô? 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 Oui, madame. Oui. Peut-être, peut-être. Je ne demande pas mieux. Oui. 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 Alors, je vous disais donc qu'une cité scolaire, le terme de cité scolaire désigne un ensemble important par le nombre des élèves et important par la variété des options qui leur sont offertes. Dans le cas précis, la cité scolaire de la Source comporte un lycée lui-même polyvalent, c'est-à-dire classique et moderne d'un côté, technique de l'autre, et puis un collège d'enseignement technique annexé au lycée. En plus, à titre provisoire, nous logeons un premier cycle, c'est-à-dire un départ de CES. On doit construire à la Source un CES dans un an sans doute. Alors les enfants de 11 à 15 ans iront dans ce CES, ils ne verront plus dans l'établissement. Et l'établissement sera à ce moment-là revenu à sa vocation primitive, c'est-à-dire lycée et CET annexé. Comme un CET va s'appeler bientôt collège de second cycle, en fait, c'est un ensemble scolaire de second cycle que l'on a. Quant au terme de cité scolaire, ma foi, c'est un de ces termes à la mode, qui tend d'ailleurs actuellement à passer de mode, parce qu'il date d'une époque, 5 ou 6 ans, où l'on avait cru commode et utile d'installer d'énormes ensembles scolaires. Les deux plus remarquables étant la cité scolaire d'Amiens et la cité scolaire de Tours, qui ont 4000 et 4300 élèves. Ici, la cité scolaire est faite pour 3300 élèves. Comme elle débute tout juste, nous en avons 1850.
Mm-hmm. Ah oui. Est-ce qu'il y aura des possibilités de passage d'une section ou d'une partie du collège ou du lycée à une autre? Par exemple, si un élève se trouve en CET et vraiment voudrait être en lycée classique?
Cela existe.
Oui.
Cela existe pour nos élèves de CET qui préparent le CAP. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant des examens français, des différents examens de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique.
Un peu.
Mais bon.
Oui.
Alors, un élève qui a son CAP, c'est-à-dire un élève qui a fait 3 ans d'études professionnelles, car en fait ce sont surtout des études professionnelles, après être entré à 14 ans, et qui est élève de CET, s'il réussit très bien, peut rentrer dans une seconde spéciale. Cette seconde spéciale n'existe pas ici, car le besoin ne s'en fait pas sentir, il n'y a pas de demande. Donc là, la réponse est négative, mais par absence de demande, pas par impossibilité technique. Autre cas, nos élèves de CET qui préparent le BEP, c'est un examen en 2 ans, avec recrutement d'enfants à 15 ou 16 ans au niveau de la sortie de la troisième. Ces élèves-là, s'ils sont de bons élèves, peuvent rentrer dans une classe d'adaptation, une première d'adaptation, qui ensuite les mènera au baccalauréat ou au brevet de technicien. Nous allons avoir à la rentrée prochaine, ce sera une de nos nouvelles classes, une première G1 d'adaptation. C'est pour les élèves préparant le secrétariat et le baccalauréat des techniciens techniques administratifs. Nous aurons plus tard d'autres premières d'adaptation au fur et à mesure que les besoins se feront sentir et que les élèves arriveront dans ces classes-là, car le BEP est un examen qui débute en France.
Oui.
Nous sommes parmi les premiers à l'avoir. Vous avez dû en voir aussi à Benjamin Franklin, si vous êtes allé là-bas.
Ah oui. Mais avant le BEP ou le CAP, il n'y a pas de transition entre les différentes classes?
Vous parlez toujours du collège d'enseignement technique.
Non, de toutes les sections qui sont
Vous parlez
comprises.
alors de possibilités de
La
passage de
possibilité de
l'un à
passage
l'autre.
de l'un à
Eh
l'autre,
bien, vous
oui.
savez, étant donné qu'en France, l'enseignement est sans doute plus planifié que dans votre pays. Oui.
Je ne sais pas, mais les plans sont différents. Je ne sais pas si
Planifié,
vous
si
faites
vous
moins de
préférez, que
vérifications, mais.
l'enseignement est beaucoup plus centralisé et structuré. L'élève, finalement, a très peu de liberté en France. Il passe par toutes sortes de conseils, de gens, de conseils ou de conseillers qui l'orientent dans une voie. La voie qui est choisie est en général la voie maximale. C'est-à-dire que le passage ne se fait guère que dans le sens inverse. Quand un enfant échoue, on tente de trouver pour lui un niveau inférieur. Vous avez donc un passage beaucoup plus fréquent et sans qu'il y ait besoin de classe spéciale du lycée au CET.
Ah oui,
Dans
je
ce
vois.
sens-là, oui. Quand on oriente des enfants à la fin de la classe de troisième, ceux qui ont vraiment la moindre capacité de faire des études d'enseignement long, on les met en lycée classique ou technique. Si ensuite il s'avère qu'on a été trop indulgent ou trop optimiste, eh bien ils repassent en CET. Mais le contraire n'existe pour ainsi dire jamais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été trop sévère.
Ah oui, je vois.
L'enseignement français est comme ça à tous les niveaux. C'est d'ailleurs un de ces drames, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une crise dans l'enseignement supérieur en France. C'est qu'à force d'indulgence et de charité, on a admis dans l'enseignement supérieur des gens qui étaient absolument inaptes à y aller. Vous savez que c'est un point de vue terriblement discuté actuellement, cela en
Oui,
France.
oui,
C'est le problème de la sélection. Personnellement, je suis absolument pour la sélection. D'ailleurs, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a sélection un jour. Si ce n'est pas sélection à l'entrée dans les facultés, ben c'est sélection par l'existence.
Est-ce que vous préféreriez que cette sélection s'opère au niveau du baccalauréat, c'est-à-dire que le baccalauréat devienne un examen sélectif?
Oui, sans aucun doute. Il existe. Pourquoi en créer un autre? Pourquoi en créer un autre? Remarquez que, en fait, et dans le fond, tout le monde est du même avis en France. Seulement, comme il y a des tas de gens qui, par leur position politique ou administrative, sont amenés à faire un peu de démagogie, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Et ils reconnaissent que la sélection est excessive, ou qu'elle est un échec, ou qu'elle est immorale. Ou, enfin, vous pouvez trouver tous les considérants selon l'ordre de, selon la catégorie de pensée à laquelle vous vous rattachez.
Donc, si on faisait du baccalauréat un examen sélectif, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir à côté un certificat de fin d'études?
Il existe.
Il existe.
Il existe. Il existe. Je ne peux même pas vous dire son nom, mais il existe. Certificat de fin d'études secondaires, peut-être. On le délivre à tous les candidats qui n'ont pas eu le baccalauréat et qui ont eu une moyenne de 7 ou de 8.
Donc, on aurait un examen et plusieurs
Oui.
niveaux possibles de
Mais vous
réussite.
savez, pour les Français, seul compte le baccalauréat. Cet examen, on est frappé. On le délivre aux élèves, mais si on ne leur envoie pas, ils ne viennent pas le réclamer. Ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est le baccalauréat. Même si le baccalauréat n'a aucune valeur, ou si, comme en 1968, on le donne à 90% des élèves, ça n'a aucune importance. Ce qu'ils veulent, c'est le nom, un diplôme. C'est une des formes de l'examinite. C'est une maladie chronique chez les Français.
Nous pourrions peut-être revenir là-dessus plus tard. J'aimerais vous demander, vous poser encore quelques questions au sujet de l'origine de cette cité scolaire. Je vous posais la question sur le passage d'une classe à une autre, parce que je me demandais pourquoi mettre ensemble sur un
Pour
seul
ça.
lieu.
C'est pour ça.
Pour ça, oui.
C'est pour cela. Il y a une autre raison qui est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus importante. Les établissements scolaires et les professeurs français ont une tradition consciente chez certains, inconsciente chez la plupart d'entre eux, et qui consiste à souhaiter que leurs élèves fassent les mêmes études qu'eux. C'est aussi une des causes de ce désastre qui amène en faculté des tas de malheureux qui font des études qui ne leur serviront à rien plus tard. Alors, les professeurs des classes de troisième, niveau où se fait l'orientation en France, ont toujours tendance à pousser leurs élèves vers l'enseignement long. Alors, il est souhaitable d'avoir des établissements polyvalents. Les professeurs, comme ça, envoient l'enfant au lycée. L'enfant est au lycée. Les parents ne sont pas humiliés. Il est au lycée, même s'il est dans une section technique. Car le technique, en France, c'est quelque chose de honteux. Il ne faut pas se le cacher. Pour beaucoup de gens, c'est encore quelque chose d'évident. Le technique, c'est une maladie honteuse. Si un fils ne réussit pas, ben, il va dans le technique. Et puis s'il ne réussit pas du tout, il va en collège d'enseignement technique, là, alors c'est l'abîme seulement. Alors, on a le même établissement. Donc le fait que ce soit du classique, du moderne ou du technique, les voisins, les parents, les amis ne le savent pas trop. Alors c'est moins choquant. Et on accepte beaucoup plus facilement certaines orientations du côté des parents. Et puis, sans entrer dans cet aspect que je grossis quand même un peu en plaisantant, mais qui est très vrai dans la mentalité française, il y a des questions de commodité. Il est très agréable d'avoir pour une famille, d'avoir à portée de son domicile enfin, le plus grand nombre d'options possibles. On peut dire que sur Orléans, ce désir est réalisé avec le lycée Benjamin Franklin et mon établissement. Le lycée Benjamin Franklin, lui, a tout le technique, enfin, en gros, les principales sections techniques secondaires, si vous voulez. Tandis qu'ici, j'ai le technique tertiaire et une partie aussi du secondaire, c'est-à-dire l'industrie de l'habillement, et puis bientôt l'industrie chimique. Alors, ça recouvrira l'ensemble.
Et qui est-ce qui a décidé de la construction de cette cité? C'est la ville?
Non. La construction d'un établissement scolaire, quel qu'il soit, celui-là comme un autre, est une décision qui est prise par un organisme qu'on appelle le service de la carte scolaire nationale, au ministère de l'Éducation nationale. Il y a une proposition de l'inspecteur d'académie du département qui signale qu'un besoin existe et qui ensuite fait aboutir cette proposition devant la commission académique de la carte scolaire du rectorat. Puis le rectorat transmet au ministère avec avis favorable et le ministère approuve ou n'approuve pas. S'il approuve et si on a l'argent de conditions indispensables, on se lance dans la construction.
Et l'argent vient d'où?
Du ministère.
Du ministère.
Du ministère, oui.
Totalement ou est-ce que la ville?
Oh, la ville a participé, mais pour une toute petite partie.
Même pour l'achat du terrain?
Peut-être pour le terrain. Vous savez, je ne suis pas très au courant de ces tractations initiales.
Et en tant que directeur...
Ce n'est pas du tout par désintérêt de ces questions que je considère comme au contraire essentielles. Mais c'est par manque de temps. Depuis que je suis arrivé dans cet établissement, il y a tellement de problèmes que je me suis occupé des plus urgents. Et comme ces questions d'origine ne créent aucune source d'urgence et de conflit avec qui que ce soit, pour l'instant, je ne suis pas informé sur la question.
Oui, naturellement. Oui. Et vous, en tant que directeur, jusqu'où est-ce que vous...
Pardon. Jusqu'où?
Jusqu'où s'étend votre liberté, votre initiative?
Dans quel domaine? Pour ce qui est de la construction?
Pour ce qui...
Pas je suis arrivé après.
Oui, c'est ça.
Alors,
et pour ce qui est
du... liberté.
Pour ce qui est des horaires, des programmes, des classes qu'on va mettre, qu'on va faire venir ici?
Alors, les horaires et les programmes, aucune initiative. Application très stricte des circulaires ou décrets ministériels fixant l'horaire des classes. Ce que je vous dis là n'est pas original. N'importe quel chef d'établissement vous dirait exactement la même chose. S'il ne vous le dit pas, il a tort, car il est obligé de le faire tout comme moi. Tout au plus, y a-t-il en France quelques établissements appelés pilotes ou expérimentaux qui ont une certaine souplesse, une certaine latitude pour procéder à des expériences. Mais autrement, d'un bout à l'autre de la France, les enfants ont exactement le même horaire et le même programme. C'est quelque chose que je trouve parfait, personnellement, parce que j'ai l'esprit plutôt jacobin. C'est-à-dire que j'estime que tout doit être, que par souci d'égalité, si vous voulez, tous les enfants doivent se trouver partout exactement dans les mêmes conditions. C'est là encore une réserve que je ferai vis-à-vis de l'actuelle réforme de l'enseignement supérieur. Je suis très inquiet à l'idée que les facultés aient la possibilité de délivrer elles-mêmes des diplômes qui, d'une faculté à l'autre, n'auront pas la même valeur. C'est un sentiment auquel vous n'êtes peut-être pas très accessible, étant donné que, justement, vous vivez cet état de fait en Angleterre et que, sans doute, ça ne vous choque pas. Mais personnellement, je pense que quelqu'un qui a une licence de lettres où que ce soit en France, doit pouvoir être accueilli, sans, c'est d'ailleurs son intérêt, sans que la qualité de sa licence soit mise en cause. Quand je vois arriver un professeur qui a une licence de lettres et le CAPES, je n'ai pas l'habitude de lui demander où avez-vous eu votre licence. Pour moi, il a une licence de lettres, c'est-à-dire que ça sanctionne un niveau qui est universellement reconnu en France. À partir du moment où on aurait beaucoup plus de liberté dans les facultés, à ce moment-là, je lui demanderai où avez-vous eu votre licence de lettres. Et pour telle faculté, je conclurai, je ne lui dirai peut-être pas par gentillesse, mais je conclurai, ah ben alors c'est une bonne licence, ça a de la valeur, ou bien ça n'a aucune valeur, c'est un professeur qui ne connaît pas son affaire. Voilà pourquoi en France, on est quand même très attaché au centralisme des horaires et des programmes.
Et donc,
alors voilà pour le premier aspect. Vous m'avez demandé aussi si j'avais une certaine liberté du point de vue des classes.
Oui.
J'ai trouvé des classes en arrivant. Évidemment, il a donc fallu que je fonctionne avec ce qui existait. Ceci dit, j'ai la possibilité de solliciter auprès du ministère ou du rectorat, selon les sections, de nouvelles options ou de nouvelles sections. Ça ne veut pas dire que je serai suivi. J'ai été suivi dans ce que j'ai demandé cette année. J'en suis donc content. Mais j'aurais pu tout aussi bien ne pas être suivi. Ça a été le cas de mes collègues d'Orléans, un autre établissement d'Orléans a demandé plusieurs sections qui lui ont été refusées. Mm-hmm. Chez moi, on a accepté parce qu'il y avait de la place. Mm-hmm. C'est en fait le problème. L'établissement existe, il est grand, il y a encore de la place, il faut donc le remplir au plus vite pour éponger les excédents d'élèves.
Mm-hmm.
C'est ça. Alors j'en profite quand même pour demander ces choses-là intelligemment, enfin ce que je crois être intelligent tout au moins, c'est-à-dire ouvrir le plus possible l'éventail d'options. Alors autrement, j'ai évidemment une certaine liberté du point de vue de l'effectif des classes. Par exemple, j'ai deux classes de premier A. Eh bien, si je le désire, je peux en ouvrir trois l'an prochain, ou bien je pourrais n'en avoir qu'une. Je pense que je garderai les deux, ce sont les classes de littéraire. Je crois qu'on a beaucoup trop de littéraires en France, enfin de faux littéraires, car ce ne sont plus des littéraires nos élèves de A maintenant. La plupart de nos élèves de A, ceux qu'on appelle des élèves de A4, sont des élèves qui ont échoué partout. Ils ont été inaptes à faire du latin, inaptes à faire des mathématiques, peu aptes à faire des langues vivantes, alors on les a mis dans une section qu'on a baptisée littéraire. Et ils iront en faculté, et ils auront une licence dans 5 ou 10 ans. Alors donc une certaine liberté du point de vue-là.
Oui.
De même que dans une autre option, j'estime, l'option de secrétaire médico-social, j'estime qu'on a beaucoup trop d'élèves dans l'établissement. Alors au lieu de prendre 3 classes comme il y avait il y a 2 ans ou 2 classes comme il y avait l'an dernier, je n'en prendrai que. Là, il y a une certaine liberté.
Et pour le nombre des élèves dans chaque classe, est-ce que c'est vous qui décidez cela?
Non, il y a un plafond national. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 40 élèves dans une classe de second cycle et pas le droit d'avoir plus de 35 élèves dans une classe de premier cycle. Si je mets 41 élèves, le professeur est en droit de refuser le 41e élève.
Oui.
Les professeurs sont en droit de le refuser.
Oui.
Leur syndicat le leur demande d'ailleurs. Et ayant été moi-même professeur, je ne peux pas leur donner tort.
Oui.
Parce que j'estime que c'est vraiment le maximum possible. Et ce n'est pas un chiffre heureux. Il faudra baisser ce maximum de services. Il l'a été déjà il y a 2 ans.
Mais est-ce que vous auriez le droit de baisser vous-même ce plafond, de dire, moi, je n'aurai plus de 30?
Non. Pourquoi? Il n'y a aucune raison que le prix de revient de l'instruction d'un élève soit plus coûteux, soit moins coûteux dans mon établissement qu'ailleurs. Ce n'est pas à moi de fixer ça.
Mm-hmm.
Le budget national a calculé ça. Toutes ces choses-là sont calculées.
Mm-hmm.
Le prix de revient d'un élève est calculé. Ce n'est pas à moi de faire intervenir des données de ce genre. Ceci dit, j'ai quand même des petites possibilités pour jouer là-dessus. Si j'ai 38 ou 39 élèves, 2 possibilités s'offrent à moi. Ou bien je refuse tous les autres candidats, s'il y en a. Je reste à 38, 39 élèves. Ou bien j'essaie d'en recruter 4 ou 5 en plus. Si j'en recrute 4 ou 5 en plus, je peux dédoubler la classe. Et chaque fois que je peux, je le fais. Mais en fait, si vous voulez, je n'ai pas modifié les règles administratives. Comme ça, elles sont respectées.
Mm-hmm.
J'ai simplement tâché de faire en sorte qu'on ait plus de,
mm-hmm.
qu'on ait plus de classe et que donc l'intérêt pédagogique des enfants soit pris en considération.
Et on vous donnerait automatiquement le nombre de professeurs qu'il vous faut pour ces doubles classes?
Non. Certainement pas. Il faudrait que je tâche de persuader mes professeurs d'accepter de faire des heures supplémentaires. Ce que quelques-uns feront par gentillesse, quelques autres par goût de l'argent, et que d'autres refuseront pour des raisons de santé ou pour obéir à leurs consignes syndicales.
Et pour le recrutement des professeurs en général, est-ce que c'est vous personnellement qui recrutez ?
Il y a deux catégories de professeurs vraiment très différentes dans leur recrutement. La première est celle des professeurs agrégés ou certifiés. Ces gens-là, pourvus de la licence d'enseignement, puis d'un concours que l'on appelle le CAPES, ou bien l'agrégation, vous devez savoir ce dont il s'agit. Ces gens-là, donc, sont nommés par le ministère. Moi, je n'y suis absolument pour rien. Je ne les connais pas. Qu'ils me plaisent ou non, je dois les accueillir. Et c'est un problème que je ne me pose même pas, d'ailleurs. Restent les maîtres auxiliaires. Les maîtres auxiliaires sont des débutants. Ces gens-là n'ont passé aucun concours. Ils sont nommés par le rectorat. Officiellement et en principe, ce sont des commissions paritaires qui les nomment. Oui. Si vous voulez, on va interrompre.
Un conseil d'enseignement où l'on réunit tous les professeurs qui enseignent la même spécialité et puis on se met d'accord sur les livres. Là, l'adversaire, si l'on peut dire, ce sont les parents d'élèves. Car les professeurs ont tendance à beaucoup changer de livres. Et les parents d'élèves, eux, souhaitent qu'on ne change pas de livres pour des raisons financières.
Parce qu'ils achètent
achètent les livres. L'État prend à sa charge l'achat des livres en 6e et 5e. Pour les élèves de 11 ans, 12 ans, mais pas pour les classes ultérieures. Et pour certaines familles, c'est un sacrifice vraiment important. Mais je crois quand même qu'il est souhaitable, malgré cela, que les professeurs conservent leur liberté d'action.
Et en ce qui me concerne l'enseignement surtout des langues vivantes, qui m'intéresse tout particulièrement,
oui.
Si le professeur voulait faire un enseignement audiovisuel, est-ce qu'il aurait tout le droit de le faire?
Le droit, oui, car chaque professeur a une liberté totale dans sa méthode pédagogique. Mm-hmm. Liberté à condition évidemment qu'il reste dans un certain nombre de règles, mais qui ne sont pas tellement discutées par l'ensemble du corps enseignant. Il peut donc ou bien enseigner l'anglais de façon traditionnelle, ou bien l'enseigner de façon mixte, ou bien l'enseigner de façon audiovisuelle, ou bien même l'enseigner à l'aide de cabines, ce que nous n'avons pas dans l'établissement mais que nous devons avoir. C'est seulement à la suite de retards administratifs que notre laboratoire de langue vivante n'est pas encore installé. Nous devons avoir un laboratoire avec 15 cabines. Alors le professeur est libre. La seule chose est qu'il est nécessaire que les inspecteurs généraux qui passent dans sa classe constate que les enfants travaillent normalement. Si vous voulez, la méthode importe peu, pourvu que le résultat soit là. C'est un domaine où le professeur est libre. Il tient beaucoup à sa liberté, et il a raison. Mais je répète, sa liberté est quand même contrôlée par un certain nombre de choses. Des instructions officielles précisent la fréquence des devoirs. Un professeur doit faire tant de devoirs par mois, ou tant de devoirs par trimestre dans chaque matière, ou tant par semaine. Alors, cela, je le contrôle. Je le contrôle avec une certaine souplesse. Tant que l'écart n'est pas anormal, n'est pas excessif, je ne dis rien. Si vraiment cet écart traduit de la part du professeur non pas une façon de concevoir son métier, mais simplement sa paresse, alors j'interviens. Et le professeur en général se met à donner un peu plus de devoirs. Ça ne veut pas dire qu'il les corrigera plus sérieusement. Mais là encore, j'interviens, avec un succès relatif, mais quand même un certain succès.
Je retourne en arrière un petit peu, mais en ce qui concerne le choix des langues vivantes, est-ce que dans un établissement, le directeur choisit les langues vivantes qu'il va enseigner ?
Même réponse que tout à l'heure, c'est la carte scolaire académique qui décide.
Oui.
Je ne peux pas faire enseigner n'importe quelle langue. Mm-hmm. Ici, il y a l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et j'ai demandé et obtenu le russe pour l'an prochain.
Mm-hmm. Oui, c'est très bien.
Ça fait déjà un échantillon assez vaste.
Oui. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions maintenant sur votre rôle, vous-même, de proviseur?
Oui.
En quoi consiste surtout votre travail?
Mon travail actuellement, et depuis que je suis arrivé dans l'établissement, est surtout un travail administratif. C'est un aspect de travail qui ne me déplaît pas, étant donné que personnellement j'aime bien l'administration, mais je souhaite formation purement universitaire, je suis un ancien agrégé de lettres classiques, c'est-à-dire une catégorie d'individus considérés comme absolument inutiles à la société maintenant. Alors, j'ai réussi à trouver une activité qui est considérée comme plus utile à la société, mais très discutée depuis les événements de mai-juin 1968, puisque je représente un autre aspect au nid maintenant, c'est-à-dire la hiérarchie et l'autorité. Vous voyez, décidément, je n'ai pas eu de chance dans mes vocations successives. Alors, mon travail parle de la nécessité des choses et surtout un travail administratif, mais cela tient à l'absence totale d'organisation dans l'établissement quand je suis arrivé. C'est un établissement qui démarrait, première difficulté. Mon prédécesseur et une partie de son équipe qui a quitté l'établissement en même temps qu'elle étaient des gens qui croyaient beaucoup à la pédagogie mais qui n'étaient pas du tout des organisateurs. Et puis les restrictions financières budgétaires en France, pour lesquelles, auxquelles vous avez dû entendre de nombreuses allusions dans les journaux ou la radio, font que nous n'avons pas de personnel suffisant. Alors en fait, je fais tous les métiers et un peu celui de chef de secrétariat, par nécessité. C'est quelque chose qui ne durera pas éternellement parce que peu à peu l'établissement va atteindre sa vitesse de croisière, son effectif en personnel augmentera, on aura rationalisé l'organisation du travail, donc peu à peu cela ira beaucoup mieux dans ce domaine. À ce moment-là, je pourrai passer un peu moins de temps au travail administratif, très important dans un pays centralisateur, où je dois rendre compte à l'inspecteur d'académie, qui rend compte au recteur, qui rend compte au ministre pour la moindre des choses. Mais à certains égards, c'est un garde-fou, c'est nécessaire. Ça évite les excès de la passion et les imprudences. Donc, indépendamment de ce travail, je pourrais me consacrer davantage au travail pédagogique. Mais avec une certaine réserve, parce que je ne suis pas inspecteur général. Et il ne s'agit pas d'empiéter sur les prérogatives des inspecteurs généraux. Mais enfin, on peut aider les professeurs, et je crois que j'ai un rôle très important à jouer pour aider les professeurs débutants que sont les maîtres auxiliaires. C'est-à-dire ces gens qui n'ont jamais appris à enseigner, qui souvent n'ont même pas encore tous les titres nécessaires pour enseigner, et que l'on nomme dans un établissement scolaire, faute d'avoir d'autres personnels. Il serait souhaitable que j'aille voir ces gens-là une fois par semaine, peut-être, ou une fois par mois. Or, pratiquement, il y en a que je n'aurais même pas vu une fois dans l'année, par manque de temps pour aller même simplement passer une heure chez eux. Donc à cet égard-là, c'est quelque chose de décevant. Mais on ne peut pas tout faire. Alors il faut parer au plus pressé, il faut arriver à faire fonctionner l'établissement. On peut dire que pratiquement l'an dernier, il ne fonctionnait pas. Alors maintenant, il commence à fonctionner. Cela implique l'utilisation de méthodes considérées peut-être par mes collègues professeurs comme autoritaires, mais dont souvent ils se rendent compte que finalement elles sont justifiées par les résultats, même si cela leur déplaît quand on tâche de les appliquer. Il a été très difficile de faire admettre aux professeurs qu'ils devaient arriver à l'heure, par exemple. Ils ont beaucoup souffert pour s'y mettre. Maintenant, ils le font, à part peut-être un récalcitrant, qui est incurable, évidemment, mais qui progresse. Parce qu'au lieu d'être en retard deux fois par jour, c'est-à-dire le matin et le soir à son arrivée dans l'établissement, il n'est plus guère en retard que deux fois par semaine. Pour lui, c'est un progrès gigantesque. Même si pour vous, cela paraît étonnant, disons, pour ne pas dire plus. Alors, c'est un aspect de mon rôle. C'était aussi un aspect de mon rôle d'habituer les professeurs à faire cours dans la salle qui leur était prévue. Parce que l'an dernier, on circulait beaucoup. La salle ne convenait pas, on allait ailleurs. Puis le professeur qui devait arriver dans cette salle et qui était en retard, c'était une habitude bien installée, trouvait des gens dans la salle, alors il allait ailleurs. C'est un établissement dans lequel on errait. Ce n'est pas encore un établissement bien organisé, on ne me fait pas d'illusions. Mais cela viendra. Dès la rentrée prochaine, nous travaillerons mieux. C'est l'ennui de ces énormes établissements, c'est que l'organisation est lente. L'organisation est lente. En fait, actuellement, et c'est pour ce que certains professeurs comprennent mal, parce qu'ils n'ont pas fait d'administration. Nous avons, on peut dire, depuis le 1er janvier, sacrifié l'année en cours, nous n'en occupons plus, nous faisons le minimum, et nous travaillons pour la rentrée prochaine. De même que le ministère travaille depuis le mois de septembre, pour la rentrée de septembre 1970. Ces choses-là se prévoient longtemps à l'avance.
Et avec les parents, vous avez quelques contacts?
Avec les parents, je n'ai pas tellement de contacts.
Ils sont souhaitables que j'en ai beaucoup, mais je n'ai pas le temps. Alors, quand des parents d'élèves demandent à me voir, on leur demande avec une certaine insistance si leur problème ne pourrait pas être étudié par Madame le censeur ou par Madame la directrice du CET ou par le sous-directeur du CES. S'ils se laissent faire, et ils se laissent faire presque toujours, on les envoie à ces personnes qui s'occupent de leur problème, qui est en général un problème scolaire pour lequel je n'ai aucun besoin d'intervenir. L'enfant ne réussit pas bien en mathématiques. Que voulez-vous que j'y fasse? Il y a deux raisons. Ou bien l'enfant est paresseux, mais n'importe qui peut le dire. Ou bien il est inintelligent. Et comme le responsable, ce sont les parents qui viennent me voir, je ne peux pas leur dire trop cruellement. Mais enfin, je leur dis quand même, parce que quand l'occasion s'en présente, parce qu'il ne faut jamais dorer la pilule, comme on dit, aux parents. Leur déconvenue est trop cruelle après. Et puis surtout, elle a des conséquences funestes quand ils engagent les enfants, ce qui est presque toujours le cas d'ailleurs, dans des études dépassant leurs possibilités. Alors à cet égard, je joue le plus possible un rôle de frein. Et j'essaie de pousser mes collaborateurs à jouer ce même rôle. Alors il y a des questions d'entente personnelle. C'est gênant. Et c'est un problème qui se pose dans presque tous les établissements scolaires. L'équipe administrative souvent s'entend mal. Ce sont des gens qui ne se sont pas choisis les uns les autres. Moi, je suis venu à Orléans par hasard. J'étais proviseur d'un lycée dans les Alpes. Je voulais revenir dans le centre-ouest. J'avais demandé à aller à Poitiers, Angoulême, Niort. Il n'y avait pas de poste cette année-là. On m'a demandé si Orléans m'intéressait. C'était un beau poste au point de vue carrière, c'était même plus intéressant. Mais ça m'était égal, j'aurais préféré aller à Poitiers. Alors, ma foi, j'ai pris Orléans. Tous les fonctionnaires qui sont là, c'est plus ou moins la même chose. Alors le résultat, c'est que l'entente est relativement bonne. Je m'entends excellemment avec Madame le censeur, que vous avez vu tout à l'heure, avec le directeur du CES, et très mal avec la directrice du CET, ce qui crée certains conflits. Alors il faut des circonstances exceptionnellement heureuses pour qu'ils puissent être résolus. Madame la directrice du CET a pris 4 mois de congé. Alors pendant ce temps-là, il n'y a eu aucun problème, son établissement a parfaitement fonctionné. C'est le censeur et moi qui nous en occupions de loin. De loin. L'administration, si vous voulez, devrait arriver à être le plus possible inaperçue. Elle doit faire tourner les choses sans que les gens aient l'impression d'être contraints. C'est l'idéal. Je n'y réussis pas, mais c'est un idéal vers lequel on peut tendre. Et je crois que si on arrive à vous connaître une période de plusieurs années de calme, en 2 ou 3 ans, c'est quelque chose à quoi on doit arriver dans un établissement comme celui-là. J'y étais bien arrivé dans mon précédent établissement, beaucoup plus petit, en 2 ans, et malgré la traversée de la période de mai-juin 1968. Alors on peut y arriver. C'est cela l'idéal d'un administrateur. Il doit faire oublier qu'il est administrateur, mais en même temps avoir absolument tout prévu. C'est encore, je déborde, mais c'est que vous savez, pour les Français, c'est un problème cruel celui-là, sur le problème des universités. Je crois que c'est le plus grand drame des universités, c'est qu'elles n'ont pas de personnel d'administration et de secrétariat. Enfin, elles en ont très très peu. Alors, beaucoup de réactions agressives s'expliquent parce que les gens, au fond, ne savent pas du tout ce qui les attend, où il faut s'adresser, ce qu'ils doivent faire. Chaque année scolaire, certains étudiants attendent 2 ou 3 mois pour savoir quels seront leurs professeurs, leur horaire ou leur programme. On a créé d'innombrables universités sans créer le personnel correspondant. Alors, une difficulté. Les lycées ont la chance d'être mieux partagés de ce point de vue-là. Et c'est pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles il y a moins d'incidents dans les lycées. Si vous administrez bien les gens, ils sont moins portés aux solutions extrêmes que s'ils ne savent pas vers qui se tourner. Alors quand ils ne savent pas vers qui se tourner, mais ils manifestent dans la rue. Dans les lycées, quand même, c'est moins fréquent.
Vous avez un conseil d'administration?
J'ai un conseil d'administration. C'est une institution qui est réglementaire. Comme je suis un bon fonctionnaire, j'applique le règlement. Mais personnellement, je n'y crois pas. Et on peut dire que 98% des chefs d'établissement sont hostiles à l'existence du conseil d'administration. C'est une institution qui a été créée par le ministère de l'Éducation nationale, qui était parfaitement conscient des désagréments et des difficultés que cela entraînerait. Mais c'est une sorte d'exutoire, le conseil d'administration. Chacun vient y apporter ses doléances. J'écoute avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité.
Et puis, quand la séance est finie, tous ceux qui ont protesté sont persuadés qu'ils ont soulevé des montagnes et pendant 2 mois se tiennent tranquilles. Ils recommenceront à la prochaine séance du conseil d'administration. Ces séances sont longues, elles durent 6 heures, 7 heures. J'ai la résistance physique, je tiens mieux le coup qu'eux. C'est à moi que reste toujours le dernier mot. En fait, ça ne joue pas du tout le rôle réel d'un conseil d'administration. Dans un conseil d'administration normal, les administrateurs sont au courant des problèmes et tâchent d'agir au mieux des intérêts de la société ou du groupe qu'ils sont censés administrer. Là, on a affaire à des gens qui n'ont qu'un souci, c'est de présenter des revendications catégorielles et qui, en plus, pour la plus grande partie, sont parfaitement ignorants des vrais problèmes. Car les problèmes débattus avec toujours énormément de passion dans les conseils d'administration, ça représente à peu près le centième des problèmes que j'ai à résoudre. Or, si vous interrogez des professeurs membres des conseils d'administration, ils sont persuadés qu'ils ont abordé, eux, 90% des problèmes importants de la maison et qu'ils ont laissé de côté peut-être 10% en plus. C'est totalement faux. Je ne les détrompe surtout pas. Parce qu'à ce moment-là, il réclamera encore plus de réunions au conseil d'administration. On en a en principe une par trimestre. Là, pour des raisons pratiques et un fait exceptionnel qui ne tenait pas à notre établissement, on a eu une réunion supplémentaire cette année. On en aura donc 4 dans l'année au lieu de 3. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Pour parler de quelque chose, il faut quand même savoir un peu de quoi on parle. C'est ce qui est oublié dans l'existence de cette institution.
Pourrais-je vous demander qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans tout ce que vous faites, tout votre travail?
Dans mon travail ou dans ses résultats? Vous parlez de moi,
du rôle, du travail.
Les résultats aux examens, sans aucun doute. Il y aura de mauvais résultats cette année dans l'établissement. Je m'en désole, mais je n'y pouvais rien. Dans 2 ou 3 ans, ils seront meilleurs. Les résultats aux examens.
Les examens sont très importants, donc, pour vous.
Dans mon esprit, sans aucun doute. Non que j'attache une importance particulière aux examens. Ce n'est pas parce que quelqu'un ait reçu un examen qu'il est plus intelligent ou plus sympathique ou plus valable d'un point de vue humain qu'un autre. Seulement, quand les familles nous confient des enfants, c'est avec l'espoir que nous les ferons recevoir à des examens, parce que tel qu'est conçue la société en France, ce sont des examens qui ouvrent la porte de toutes les voies, quelles qu'elles soient. Alors, la plus simple honnêteté envers les familles consiste à donner aux enfants le maximum de chances d'avoir ces examens. On peut concevoir une autre société, évidemment, mais moi je suis administrateur, tout au moins dans mon métier de proviseur. Donc, c'est pas à moi de réformer la société, elle est telle qu'elle est, j'applique les règles qui existent, et il faut donner à chacun le plus possible d'armes pour s'en tirer dans l'existence. Mm-hmm. Ces examens sont une arme, ce n'est pas la seule. Pardon.
Quelles sont les matières donc les plus importantes?
Il n'y en a pas de matière plus importante pour moi. D'ailleurs, j'ai tellement de sections. Tout à l'heure, j'ai été interrompu par une inspectrice de l'enseignement technique qui organise demain des examens de flou industriel, c'est-à-dire des examens de couture sur machine dans les usines. Pour ces élèves-là, ce sont leurs 18 heures d'atelier, de montage, d'atelier devant une machine piqueuse, qui sont les heures les plus importantes et la discipline la plus importante. Ça fera plus de la moitié de leur examen. Pour un élève qui veut faire plus tard des mathématiques et qui est dans une section C, ce sont les mathématiques. Si vous voulez, pour moi, il n'y a aucune matière qui soit plus importante que les autres. Seulement, dans chaque section, et il y a quand même une trentaine de sections différentes dans l'établissement, chaque section a son programme, a son horaire, a ses épreuves d'examen avec leurs coefficients respectifs. Donc, c'est cela qui détermine l'importance. Mais moi, je n'ai pas d'idée a priori. J'oublie que j'ai enseigné du latin et du grec et je tâche d'éviter de pousser les gens à faire la même chose. C'est une erreur de considérer a priori qu'il y a des matières nobles et des matières non nobles.
Où est-ce que vous vous placez dans cette controverse sur le latin?
Sur le latin?
Oui. N'est-ce pas que la controverse existe?
Oh oui, il y a une controverse. Oui. Il y a une controverse, mais elle est relativement apaisée. Mm-hmm. Difficile de vous répondre sur cette question parce qu'au fond, je ne suis pas très certain dans ce domaine. Ce n'est pas que je ne me suis pas posé la question. Il y a du bon dans les deux solutions. Je crois que ça a été une grave erreur de vouloir faire du latin à tout le monde, ce qui était le cas dans la réforme de 1959. D'un autre côté, le latin était une bonne chose, parce que dès la sixième, il nous permettait de sélectionner les mêmes élèves. Mais vous voyez, on retombe sur une idée qui m'est chère, celle de la sélection. D'un autre côté, je crois qu'avec la réforme actuelle, suppression du latin, on défavorise les bons élèves. Moins on fait étudier de choses aux gens, mieux on peut aboutir à une certaine démocratisation de l'enseignement. Mais on aboutit à une démocratisation par le bas. Parce que, à mon avis, on ne pourra pas donner à tout le monde la même intelligence. Ça, on peut faire ce qu'on voudra, on n'y réussira jamais. C'est le seul domaine dans lequel les hommes soient inégaux. Les sociologues parlent beaucoup, évidemment, de l'influence du milieu social qui déterminerait, d'après eux, les résultats de l'élève. Moi, ça, je n'y crois pas. Car j'ai rencontré tellement d'exemples du contraire. Il est évident que mon fils sera aidé quand il arrivera en sixième parce qu'il saura très bien parler français. Mais ce n'est pas ça qui fera que plus tard il sera reçu à l'agrégation ou non. Ça ne donne qu'une apparence, ça ne donne qu'un vernis à mon avis. Un inspecteur général que j'admire beaucoup et qui est de notre circonscription cette année, M. Boisset, est un enfant de paysans, mais de paysans très pauvres. Ses parents parlaient à peine français. Il a bien réussi à être normalien supérieur et agrégé de l'année. Donc, n'importe qui, s'il est doué, peut parfaitement réussir. Et l'enseignement français l'a toujours permis, par un système de bourse qui était, déjà il y a 50 ans, infiniment plus en avance que celui des pays étrangers, qui maintenant est devenu assez banal, parce que c'est répandu un peu partout, mais qui continue. 95% des enfants de paysans sont boursiers en France. Alors, on ne peut donc pas croire que l'enseignement ne soit pas démocratique de ce point de vue-là. Pour revenir au latin, c'est dommage évidemment pour les bons élèves. On leur fait étudier de moins en moins de choses pour les mettre au niveau des moins bons. Quelle solution? Peut-être des classes de meilleurs élèves, regroupant des meilleurs élèves, peut-être. Mais ce n'est pas le problème le plus urgent.
Bon, alors j'arrête là.